Ici, ce qui est vraiment cassé, ça va être l'idée déjà qu'il y a une sorte de centre préférentiel qui serait la Terre.
Nous, les hommes, créatures qui habitons cette Terre, nous devons être, pour eux du moins, aussi étrangers et misérables que le sont pour nous les singes et les lémuriens.
La technologie des fusées avait une dimension civile pour aller dans l'espace, pour faire des observations scientifiques, etc., mais aussi un aspect militaire pour le lancement de certaines têtes nucléaires, c'est comme ça qu'on les appelait.
C'est la boîte de Pandore, hein. L'exploration spatiale est comme beaucoup d'autres choses, la boîte de Pandore a été ouverte.
Dans son roman de science-fiction « De la Terre à la Lune », Jules Verne écrit « On va aller à la Lune, on ira aux planètes, on ira aux étoiles comme on va aujourd'hui de Liverpool à New York, facilement, rapidement, sûrement. » On est alors en 1865. 100 ans plus tard, l'homme a effectivement été sur la Lune. Et aujourd'hui, il compte y retourner. Jeff Bezos, le fondateur de l'entreprise spatiale Blue Origin, entend même déplacer l'humanité dans l'espace. Il dit « Les gens naîtront dans des colonies, vivront dans ces colonies, puis visiteront la Terre de la même façon que vous visiteriez, vous savez, le parc national de Yellowstone. » Alors la fiction serait-elle devenue réalité ? Dans le podcast Hector, on part à la rencontre des scientifiques de l'UNAMUR pour questionner la science, ses pratiques et ses évolutions. Dans cette série en 3 épisodes, on va se propulser dans le cosmos et prendre de la hauteur sur la question de la conquête et de l'exploitation spatiale. Aujourd'hui, on va remonter au temps où on pensait que la Terre était le centre de l'univers. On va parler de savants qui ont tout changé, bousculé notre rapport au monde, redéfini nos perspectives pour ici et pour ailleurs. On va feuilleter une littérature qui imagine le voyage spatial et la rencontre avec la vie extraterrestre des siècles avant la mise au point des premières fusées. On va se demander ce qui attire le regard de l'homme vers les étoiles depuis la nuit des temps et raconter comment et pourquoi cet homme a fini par toucher le firmament.
Hector, le podcast qui questionne la science, les pratiques et les positionnements scientifiques. Réalisé par Céline Raz et le service audiovisuel de l'UNAMUR pour l'Institut Moretus Plantin. Épisode 1, la tête dans les étoiles.
Commander Riker's team is aboard, sir.
Help Warp 1, engage.
1610, Galilée est sur le point de jeter un énorme pavé dans la mare. Galilée, vous le savez, c'est ce savant italien dont on a l'image en tête grâce à ce portrait qui le représente, homme vieillissant avec une longue barbe grise et une lunette astronomique à la main. Cette lunette, justement, c'est une longue vue qui circulait en Europe au début du XVIIe siècle et que Galilée a améliorée. Il a surtout pensé à la tourner vers le ciel. Il en a fait la première lunette astronomique. Avec elle, le physicien est devenu astronome. Galilée observe alors les corps célestes, il se met à écrire et 6 semaines plus tard déjà, il publie ses résultats en latin.
Ah, le Sidereus Nuncius de Galilée, donc ce qu'on traduit parfois par le messager des étoiles ou le message des étoiles, je préfère le message des étoiles, mais je ne suis pas latiniste, donc je ne sais pas exactement c'est quoi la bonne traduction.
Olivier Sartenard est philosophe des sciences à l'UNAMUR. Il consulte une reproduction de l'ouvrage conservé à la bibliothèque Moretus Plantin. Une reproduction, car il ne reste que 82 exemplaires connus sur les 550 exemplaires de l'édition originale de 1610. Et ils valent, vous vous en doutez, un paquet de centaines de milliers d'euros.
C'est le premier bouquin qui met en place l'expérimentation et l'utilisation, plutôt l'instrumentation dans l'expérimentation. Mmh. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on utilise un appareil, le télescope en l'occurrence, que Galilée n'a pas inventé, mais qu'il a exploité pour le placer entre l'œil et la chose observée, parce qu'avant, en fait, on faisait encore de l'astronomie à l'œil nu, jusqu'à Galilée. C'est le premier qui, en fait, à l'aide, je crois que c'est quelque part dans le titre, qui dit, en fait, au regard de sa lunette, qu'il a fait des observations qui étaient jusque-là complètement inaccessibles. Ça en est d'ailleurs suivi toute une controverse sur est-ce que la lunette montre bien ce qu'elle montre, parce que comme c'est la première utilisation qu'on en fait et qu'en plus ça bat en brèche des croyances bien ancrées dans la communauté, ben les gens se sont sentis en droit de dire ben sans doute que c'est l'instrument qui a un défaut.
Le Sidereus Nuncius, ah, quand vous entendez cet astérisque sonore, c'est que le texte évoqué ici, en l'occurrence le traité de Galilée, est disponible sur le site internet Neptune de l'UNAMUR, un site consacré au patrimoine numérique de l'université. C'est donc qu'il a été numérisé et qu'il est librement consultable. Sur le site Neptune d'ailleurs, vous retrouverez un appareil critique lié à ce podcast et un contenu scientifique augmenté. Bref, le Sidereus Nuncius, comme ça on s'habitue, ce traité astronomique rassemble les résultats des premières observations de Galilée sur la Lune, les étoiles et les satellites de Jupiter.
Et moi j'aime bien ce bouquin-là parce que c'est un peu le moment charnière. Il y a beaucoup de gens qui le défendent comme l'ouvrage fondateur de ce qu'on appelle la science moderne maintenant, où on est passé, je crois que c'est Coiré qui parle ça d'un monde fini à un univers infini. Et que c'est en fait le premier ouvrage où on a recensé l'existence d'astres qu'on appelait les étoiles médicéennes, mais en fait qu'on a réalisé les satellites de Jupiter. Donc c'est-à-dire que c'est la première fois qu'on a réalisé qu'il existait des astres qui gravitaient autour d'autre chose que la Terre. Et donc on a réalisé que la Terre n'était pas un centre de rotation privilégié. Et donc ça cassait un peu l'idée d'une sorte de positionnement privilégié dans la nature. Et donc ça, c'était assez emblématique par l'ampleur de la révolution intellectuelle qui en a suivi.
En 1610, donc, Galilée rompt avec 2 millénaires de vision aristotélicienne en montrant que la Terre n'est pas l'unique centre des révolutions. Mais tout ne s'est pas fait d'un coup d'un seul. Le mouvement a été amorcé 60 ans plus tôt par un certain Copernic.
Grand Dieu, ça vous dit quelque chose ?
Nicolas Copernic, un astronome allemand célèbre pour avoir développé cette théorie de l'héliocentrisme, selon laquelle la Terre tourne autour du Soleil, désormais au centre de l'univers, contre l'opinion alors admise d'une Terre centrale et immobile. L'histoire des sciences consacre d'ailleurs l'expression de « révolution copernicienne », tant il est vrai qu'avec son ouvrage « Des révolutions des sphères célestes », Copernic opère une permutation qui a des conséquences considérables en astronomie et en physique. Mais l'ouvrage est publié en 1543, l'année de sa mort. Et soyons clairs, pendant 60 ans, il ne se passe rien. Le texte est technique, très peu de savants en mesurent la portée.
Qu'est-ce que c'est que ce foutoir, mon petit Bernard ?
Mais surtout que les bases empiriques n'étaient pas du tout établies, non. Donc il n'y avait aucune chance pour que, étant donné la présomption que les thèses adverses avaient à l'époque, il n'y avait aucune chance pour que ça s'impose.
Il a fallu attendre que d'autres savants renforcent la théorie de Copernic. Tycho Brahe, d'abord, combine les avantages du géocentrisme de Ptolémée et de l'héliocentrisme de Copernic dans un système mixte. Avec lui, on parle de géo-héliocentrisme. C'est-à-dire que la Terre reste immobile au centre de l'univers et que les autres planètes tournent autour du Soleil. Une manière de se conformer aux Écritures saintes, en somme. Mais tout de même, Tycho Brahe remet en cause l'immuabilité du monde supralunaire énoncé par Aristote. Tycho Brahe, alors ça n'a absolument rien à voir avec notre histoire de l'astronomie, mais je l'ai lu, alors je vous le dis, Tycho Brahe avait en épostiche, parce qu'il avait perdu le sien dans une sombre affaire de duel avec un cousin éloigné, lequel lui en aurait voulu d'avoir formulé une mauvaise prédiction astrologique. Enfin, l'affaire n'est pas tout à fait claire, celle de cette prothèse de nez faite, selon les versions, en or, en argent ou en cuivre non plus, il y a polémique chez les chercheurs, même après l'exhumation du corps en 2010, mais le nez artificiel est bien réel, il se distingue même sur certains portraits du savant danois qui en aurait développé un fort intérêt pour la médecine et l'alchimie. Bref, après Tycho Brahe, qui était quand même l'astronome le plus connu au début du XVIIe siècle, alors que soyons francs, aujourd'hui plus grand monde ne connaît son nom, eh bien après lui vient Johannes Kepler, son élève. Kepler découvre que les planètes ne tournent pas autour du Soleil en suivant des trajectoires circulaires parfaites, mais des trajectoires elliptiques. Avec ses fameuses « lois de Kepler » publiées en 1609 dans son traité « Astronomia Nova », il décrit les relations mathématiques qui régissent les mouvements des planètes sur leur orbite.
Puis il va les modéliser mathématiquement et établir sur plusieurs années, si ce n'est pas fait comme ça.
André Fusfa, professeur au département de mathématiques.
Mais dans tous ses bouquins, il va établir 3 lois. Parmi toutes les autres lois qu'il fait, il y a 3 lois qui ressortent, qui sont en fait les 3 lois de Kepler et qui vont en fait déterminer la dynamique orbitale. Et c'est toujours celle-là qu'on utilise pour les exoplanètes, mais même pour les satellites, etc. Maintenant, il y a des trucs qui sont complètement foireux. Par exemple, Kepler fait un lien entre les planètes et les polyèdres réguliers. Et donc, il montre que chacune des planètes s'associe aux polyèdres réguliers. Pas de bol, il y a que 5 polyèdres réguliers. Et au XVIIIe siècle, on découvre une planète supplémentaire au télescope. Donc ça, par contre, c'est pas de bol.
Ça démystifie un peu ces scientifiques qui, en fait, étaient à côté de la plaque sur d'autres choses. C'est même ça. Un peu ce qu'on appellerait pseudo-science.
Enfin, le génial Isaac Newton fait culminer la révolution copernicienne au XVIIe siècle en créant ce qu'on appelle parfois une nouvelle physique. En 1687, il publie ses principes mathématiques de la philosophie universelle, dont la BUM conserve un exemplaire rarissime de la première édition originale en latin. Dans ce traité, Newton met les instruments mathématiques qu'il a développés, le calcul différentiel, au service de la compréhension de l'observation physique. Il élabore en fait la théorie de la gravitation universelle, c'est pour ça qu'on le connaît. Et ce faisant, il donne enfin un cadre théorique unifié pour l'héliocentrisme.
C'est aussi un des premiers à faire la liaison entre les deux mondes, le monde terrestre et le monde céleste, en montrant que c'est essentiellement la même force qui agit sur les deux.
Olivier Sartenard, philosophe des sciences.
C'est-à-dire que quand on regarde une pomme tomber, c'est toujours l'image de la pomme, il n'y a pas eu de pomme, hein, c'est de la propagande scientifique, mais l'image de la pomme qui tombe sur sa tête et l'image de la Lune qui gravite autour de la Terre, en fait, Newton, c'est un des premiers à dire que c'est la même force. C'est le même phénomène qu'on observe. La Lune, c'est jamais qu'une grosse pomme qui tombe et qui loupe la Terre parce qu'elle a une vitesse d'entraînement. Et donc ça, il fait un travail qui est important dans l'histoire des sciences, d'unification de deux classes de phénomènes qu'on pensait être différents et qui maintenant se retrouvent unifiés sous une seule et même, un seul et même principe. Et ça, c'est considéré, même encore aujourd'hui, comme un grand accomplissement, un grand progrès scientifique. Quand des phénomènes qu'on pensait liés à des domaines différents sont en fait unifiés, ben on considère généralement qu'on a progressé dans notre compréhension.
Il a donc fallu une succession de savants pour amener au grand basculement. Rapidement dit, Copernic suggère un changement de paradigme, il propose le modèle de l'héliocentrisme, les suivants donnent une confirmation scientifique. C'est évident, la connaissance scientifique est toujours une œuvre collective.
Sur la réalité sociologique de la science, un génie isolé, ça n'existe quasiment pas. C'est accorder beaucoup trop de poids à un seul individu.
Par contre, les études sur la perception des sciences montrent que dans la perception que les gens ont de la science, demeure fortement cette idée de la science individuelle. Voilà. On dit du génie dans son garage qui s'est fait tout seul, ou à l'inverse, du scientifique complètement machiavélique. C'est une représentation très très forte, alors que c'est vrai qu'elle colle assez mal avec la réalité actuelle de la science comme entreprise sociale.
Ce qui ne me plaît pas, si tu veux, c'est que ça donne encore une figure, trop de poids à un individu. Ça a plusieurs effets pervers, parce que ça peut aussi dédouaner la société en disant « c'est de sa faute de ce scientifique-là ». Mais bon, voilà, le projet Manhattan, il n'y avait pas qu'un mec. Hein. C'est pas Einstein qui a inventé la bombe atomique. Ça pourrait dédouaner la société en disant « c'est le problème du savant fou ». Ça donne beaucoup trop d'importance aussi aux individus et à la recherche individuelle qui, en fait, n'existe pas vraiment.
Ça y est, j'ai trouvé. Oh, je viens d'avoir une idée horrible. Non, deux, même trois. Oh là là, oh là là. Oh là là, j'ai plein d'idées. Oh, je suis trop fort.
Ce qu'ils battent en brèche, tous ces savants des 16e et 17e siècles, collectivement donc, c'est l'idée selon laquelle nous sommes le nombril de l'univers. Alors non sans risque, on le sait, d'abord censuré, Galilée a carrément dû renier l'héliocentrisme devant un tribunal ecclésiastique. C'était l'abjuration publique de sa thèse hérétique ou la vie. Contredire en ordre établi depuis des millénaires, ça crée forcément du remous. Des millénaires. L'astronomie est en fait la doyenne des sciences. C'est même aux Grecs anciens que nous devons le mot « astronomie » lui-même, qui veut dire « loi des astres ». C'est bien simple, depuis que l'homme est homme, il a tourné son regard vers les étoiles. Pour deux raisons. D'abord, parce que les mystères des cieux fascinent.
On a regardé le ciel probablement depuis qu'on est bipède. C'est peut-être en fait un des endroits, enfin le ciel comme la terre, la mer, etc. C'est ce qui nous a parlé en tant qu'espèce exploratrice. Et je crois que c'est à ça que ça touche. Ça touche à notre curiosité, à notre envie de découvrir le monde.
Timon.
Oui.
Tu t'es déjà demandé ce que c'était que ces petits points brillants là-haut ?
C'est pas la peine que je me le demande, je le sais.
Oh, et c'est quoi ?
Des lucioles, Pumba. Un genre de verre qui reste collé sur cette espèce de machin bleu marine.
Oh.
C'est l'irrésistible appel des étoiles, en partie mystique, qui nous ramène à ces questions fondamentales. D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Que celui qui n'y a pas déjà passé de longues heures de réflexion entre langueur et fébrilité me jette la première pierre. Ensuite, si l'astronomie est la science la plus ancienne, c'est aussi parce que c'est la plus facile à élaborer.
L'astronomie, c'est quand même l'étude des phénomènes réguliers. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est les premières régularités qui nous frappent comparativement au monde du vivant, par exemple, où le monde du vivant, c'est très chaotique, c'est très diversifié. Faire une science du vivant, c'est pas pour rien que ça a apparu plus tard, c'est parce que c'est une science de quelque chose d'intrinsèquement diversifié, compliqué. Alors que quelque part, l'astronomie, faut pas être un grand scientifique pour voir la régularité du cycle jour-nuit, pour voir la régularité des cycles lunaires, et donc ça se prête assez bien directement à la connaissance qui, déjà pour Aristote, il disait qu'il n'y a pas de connaissance d'autre chose que de l'universel. C'est-à-dire que nécessairement, la connaissance, ça doit passer par des grandes régularités, et ça, l'astronomie s'y prête bien. Donc je crois que ce n'est pas étonnant que ça ait été une des premières sciences, en fait, à proprement parler.
C'est ainsi qu'on retrouve la première trace d'une contemplation cosmique au XVIe siècle avant notre ère avec le disque céleste de Nebra, en disque de bronze portant des motifs en or représentant la lune, le soleil et la constellation des Pléiades. L'image visait probablement à perpétuer des connaissances astronomiques dans un contexte de tradition orale. Par la suite, les astronomes babyloniens ont consigné pendant des siècles leurs observations des astres et élaboré les premières techniques de calcul pour prévoir les phénomènes astronomiques. Mais en ces temps reculés, l'astronomie se confond toutefois encore avec l'astrologie. André Fusfa, professeur au département de mathématiques.
L'astrologie, c'est d'utiliser les prédictions astronomiques et de leur donner et de penser qu'elles ont une influence sur le destin des gens. Voilà, ou sur les affaires humaines, on va dire ça. C'est vieux, hein, cette affaire-là, ça date des Sumériens et des Babyloniens qui, en fait, avaient des astronomes royaux qui étaient payés pour observer le ciel et surtout essayer de donner une interprétation pour conseiller les puissants. Après ça, faut pas s'étonner si les empires ont fuité.
Simba, qu'est-ce que t'en penses ?
On m'a dit une fois que c'était les grands monarques du passé et qu'ils nous protégeaient.
Ah oui ?
Quoi, des Maccabées de rois qui resteraient là à veiller sur nous ?
Après les Babyloniens, les astronomes grecs ont aussi intégré leurs observations dans des modèles géométriques pour calculer les mouvements de certains corps célestes. D'Aristote à Ptolémée, la logique est intuitive. L'univers est géocentrique, il tourne autour de la Terre. Ce qui est fou, avec Aristote au IVe siècle avant notre ère, avec Ptolémée au IIe siècle de notre ère, et avec leurs successeurs arabo-perses du Moyen-Âge, c'est qu'ils construisent un modèle cosmologique erroné, mais que ce modèle, il fonctionne bien. Il permet pendant des siècles de prédire les éclipses et les positions des planètes dans le ciel. Il permet de se représenter en monde parfait.
Je croyais que les cartes étaient fausses, il faudra savoir.
Attendez, j'ai pas dit qu'elles étaient fausses, on m'a dit qu'elles étaient pas d'hier, c'est pas pareil.
Mais elles sont vieilles comment ?
J'en sais rien, moi je vous répète ce qu'on m'a dit. De toute façon, j'y comprends rien aux cartes.
Oh, faites un effort, hein !
Moi, on m'a dit, attention, elles sont pas d'hier. Oh,
d'accord, elles sont pas d'hier. Est-ce que vous pensez qu'elles sont obsolètes ?
C'est pas faux.
Quoi, c'est pas faux ?
De quoi ?
Depuis l'origine, l'homme se projette donc dans l'espace, aussi loin que son imagination peut l'y emmener. Parce qu'elle s'enracine au plus profond du désir humain, la conquête spatiale comporte une part d'imaginaire. Le premier voyage sur la Lune, dont la littérature occidentale garde la mémoire, remonte d'ailleurs au, tenez-vous bien, deuxième siècle de notre ère. Lucien de Samosate écrit alors ses histoires vraies, un texte qui est souvent présenté comme le premier récit de science-fiction, alors que non, puisqu'il n'exploite aucune science, aucune technologie vraisemblable. C'est de la proto-science-fiction tout au plus. Dans cette histoire, le navire de Lucien de Samosate se retrouve sur la Lune, emporté dans les airs par une tempête. Le voyage dans l'espace est donc encore une fiction pure, et l'espace lui-même est un monde totalement imaginaire. En dépit du titre de son texte, histoire vraie donc, Lucien le précise, à cette histoire, il ne faut pas y croire.
Je me suis adonné au mensonge, bien plus loyalement que les autres. Je serai véridique au moins sur un point, en déclarant que je mens. J'écris donc sur des choses que je n'ai pas vues, que je n'ai pas vécues, que je n'ai point apprise de tiers, et qui en outre n'existent absolument pas et ne peuvent pas le moins du monde se produire. Voilà pourquoi les lecteurs ne doivent en aucune façon y croire.
En vrai, Lucien de Samosate écrit évidemment en grec ancien. Mais si je ne sais pas pour vous, j'en suis certaine pour moi, il est sans doute plus raisonnable de parcourir la traduction française de 1782, conservée à la bibliothèque universitaire Moretus Plantin. On poursuit dans le récit.
Vers le midi, un tourbillon vint envelopper notre vaisseau. Le fit tourner sur lui-même et l'enleva à la hauteur de 3000 stades. Il ne retomba point dans la mer, mais le vent enflant les voiles nous soutint en plein air et nous fit voguer dans l'espace des cieux. Après 7 jours et 7 nuits de navigation aérienne, nous découvrîmes une terre immense. C'était une île très apparente, en forme de globe et éclairée d'une grande lumière. En nous y élevant toujours de plus en plus, nous y abordons, nous la trouvons habitée et cultivée, quoiqu'il nous fût impossible de bien distinguer les objets dans le grand jour. Comme nous voulions aller plus loin, nous fûmes pris par des espèces de gardes qu'ils appellent hippogypes, et que nous rencontrâmes en chemin. Ces hippogypes sont des hommes d'une haute taille qui montent des vautours en guise de chevaux. Ces vautours sont aussi fort gros, et ont ordinairement 3 têtes. On peut juger de leur énorme grandeur par la mesure de leurs plumes, dont chacune est plus haute que le mât d'un gros vaisseau.
Un peu plus loin dans le texte, le roi de ce territoire céleste explique à Lucien :
ce pays est ce que vous appelez la lune chez vous.
Bah, il faut imaginer que la question de la pluralité des mondes, c'est quand même une question qui a taraudé les esprits des hommes depuis, depuis l'Antiquité, en fait, où Épicure pensait qu'effectivement, il y avait l'existence de plusieurs mondes semblables au nôtre.
Anne-Sophie Libert, professeure en mathématiques appliquées à l'UNAMUR.
Mais à l'époque, à l'Antiquité, c'est évidemment le géocentrisme qui était prôné par Aristote, et selon lequel bah, la Terre, c'était le centre de l'univers. Et comme c'est le centre, bien, il ne pouvait y en avoir qu'un seul.
Autrement dit, même si c'est alors totalement impossible, c'est pensable. Lucien de Samosat inaugure déjà la quête d'une intelligence extraterrestre que l'on retrouve des siècles plus tard au cœur de la science-fiction. Dès lors que Copernic, Galilée et tous les autres ont ouvert les consciences à l'univers infini, les récits exploitent ce ressort d'une vie extraterrestre pour mieux parler de nous-mêmes. C'est le cas de Cyrano de Bergerac, écrivain français du XVIIe siècle, auteur d'une œuvre audacieuse dont le diptyque romanesque « Histoire comique des États et empires de la Lune et du Soleil » est bien, cette fois, la première œuvre du genre littéraire dit « de science-fiction ». Dans les premières lignes du roman, publié en 1657 et conservé à la BUMP, Cyrano, qui est aussi le personnage principal de son roman, dit ceci.
« Je crois, sans m'amuser aux imaginations pointues, dont vous châtiez le temps pour le faire marcher plus vite, que la Lune est un monde comme celui-ci, à qui le nôtre sert de lune. La compagnie me régala d'un grand éclat de rire. Ainsi peut-être, leur dis-je, se moque-t-on maintenant dans la Lune de quelque autre qui soutient que ce globe-ci est un monde. »
Alors oui, c'est vrai, les facéties techniques qui emmènent plus loin dans le texte Cyrano sur la Lune sont encore invraisemblables, absolument non scientifiques, une histoire de rosée et d'aimant. Il n'empêche, en allant sur la Lune, Cyrano part en fait vérifier la validité des théories les plus novatrices alors en débat. Ce voyage assume un rôle de confirmation expérimentale dans savoir scientifique médiatisé par les instruments d'optique. Ce conte utopique est aussi, et ça, c'est le propre de la science-fiction, une façon de regarder d'en haut pour mieux critiquer le bas. Il décrit un territoire lunaire comme miroir du nôtre et de ses turpitudes. Avec Jules Verne, trois siècles plus tard, la science-fiction devient vraiment ce qu'il a défini aujourd'hui. En voyage vers un monde extraordinaire, au moyen de l'extrapolation des techniques existantes, en vue de proposer un regard critique sur ces techniques. Et parmi les voyages extraordinaires de Jules Verne, bien connus, il en est deux qui explorent l'espace. De la Terre à la Lune, paru en 1865, et Autour de la Lune, publié en 1870. Ce sont ces romans qui inventent littéralement le voyage spatial. Ces publications sont par ailleurs des chefs-d'œuvre de la reliure industrielle française. En témoignent les magnifiques exemplaires conservés à la bibliothèque universitaire. André Fusfa, professeur au département de mathématiques de l'UNAMUR, parcourt ces pages.
Ben Jules Verne, lui, c'est un visionnaire, parce que Jules Verne, là, il fait vraiment de la science-fiction large, parce que t'as de la science-fiction de la Terre à la Lune, t'as spatial, où là, il voit même, avant même l'invention de la fusée, ils utilisent un canon, etc. Ils trouvent la notion de pesanteur dedans, d'apesanteur dedans, etc. Donc il y a pas mal de coups de génie.
Ce roman de Jules Verne a été adapté de nombreuses fois à l'écran, et ce, dès 1902, avec Georges Méliès et son voyage dans la Lune. 1902, le cinéma n'a pas même 10 ans, c'est dire si le thème de l'exploration spatiale a d'emblée conquis. Jules Verne a aussi inspiré d'autres auteurs, à commencer par Herbert George Wells, dont l'œuvre phare est sans doute « La guerre des mondes », publiée en 1898. Dans ce roman d'anticipation, l'homme ne voyage plus dans l'espace, c'est l'extraterrestre qui vient à l'homme. L'écrivain britannique rebondit en effet sur la croyance, répandue à la fin du XIXe siècle, en l'existence de canaux martiens, croyance qui alimenta à son tour le mythe d'une vie intelligente sur Mars. Et pour la première fois, dans le récit de Wells, cette race extraterrestre est conçue comme supérieure à l'homme et hostile à la civilisation. Ces martiens sont aussi quelque peu différents des hommes terrestres, comme les décrit Wells.
Ceux qui n'ont jamais vu un martien vivant peuvent difficilement s'imaginer l'horreur étrange de leur aspect. Leur bouche singulière en forme de vie et la lèvre supérieure pointue, le manque de front, l'absence de menton au-dessous de la lèvre inférieure en coin, le remouement incessant de cette bouche, le groupe gorgonesque des tentacules, la respiration tumultueuse des poumons dans une atmosphère différente, leur mouvement lourd et pénible à cause de l'énergie plus grande de la pesanteur sur la terre, et par-dessus tout, l'extraordinaire intensité de leurs yeux énormes. Tout cela me produisit un effet qui tenait de la nausée.
Dans La Guerre des Mondes, récit disponible à la BUMP, les Martiens sont à la quête d'une sorte de planète B, comme l'humanité l'est aujourd'hui. Quelle ironie de lire.
En vérité, leur seul moyen d'échapper à la destruction qui, génération après génération, se glisse lentement vers eux, est de s'emparer pour pouvoir y vivre d'un astre plus rapproché du Soleil.
Chez Wells, l'invasion extraterrestre est une satire en reflet. Elle représente, autant qu'elle dénonce, l'impérialisme britannique.
Avec une suffisance infinie, les hommes allaient de ci, de là, par le monde, vaquant à leurs petites affaires, dans la sereine sécurité de leur empire sur la matière. Il est curieux de se rappeler maintenant les habitudes mentales de ces jours lointains. Tout au plus les habitants de la Terre s'imaginaient-ils qu'il pouvait y avoir sur la planète Mars des êtres probablement inférieurs à eux et disposés à faire bon accueil à une expédition missionnaire.
La Guerre des Mondes de Wells a à son tour donné lieu à d'innombrables adaptations radiophoniques, télévisuelles et cinématographiques avec, dès 1953, le film de Byron Askin.
Peut-être les Martiens sont-ils capables, par exemple, de percevoir les couleurs par l'odorat. Nous ayant précédé dans l'évolution, il est également possible qu'ils aient plus d'un cerveau. Deux ou trois cerveaux ?
Il y aura plus tard également La Guerre des Mondes de Steven Spielberg. Mais du cinéma, on en reparlera plus tard, justement. Parce que dans l'intervalle, il faut dire que le voyage spatial a vraiment eu lieu. Et que ça, forcément, ça change la donne. En 1957, le satellite Sputnik 1 et la chaîne Laïka sont mis en orbite. Rapidement, un premier être humain est propulsé dans l'espace. C'est le soviétique Yuri Gagarin. On est en 1961. Les Américains, essoufflés jusque-là, remportent quant à eux la seconde manche. Ils gagnent la course à la Lune avec la mission Apollo 11. 2, 1, 0, all engines running. Neil Armstrong pose le pied sur le sol lunaire en 1969. L'alunissage est une image d'Épinal, en fait historique aussi connu que la Révolution française. Sa réussite s'inscrit dans une recherche spatiale amorcée dès la fin de la Seconde Guerre mondiale et impulsée par des besoins militaires et stratégiques pas joli. Il s'agit d'une part d'obtenir la capacité d'observer le territoire adverse à l'aide de satellites de reconnaissance optique et d'autre part de trouver le moyen de placer sur orbite les satellites en question sans oublier d'emporter une bombe nucléaire. La guerre a d'ailleurs dopé l'exploration spatiale car techniquement tout commence avec l'exploit des V2, ces missiles balistiques allemands qui ont démoli une partie de la Belgique en 1944. Autrement dit, les premières fusées modernes de l'histoire de l'astronautique sont fabriquées par les nazis.
Tous les Allemands ne sont pas nazis, monsieur.
Oui, je connais cette théorie, oui.
Bruno Colson est professeur émérite à la faculté de droit et spécialiste d'histoire des relations internationales à l'UNAMUR.
Oui, le développement des V1 et des V2 par les nazis, bon, il ne s'agissait pas de conquérir l'espace, mais évidemment d'atteindre l'adversaire par des fusées. Alors, quand l'Allemagne nazie a été vaincue en 1945, vous savez que certains savants allemands sont passés côté américain, comme Werner von Braun, qu'on connaît bien, puisqu'il a contribué au programme Apollo. Et Von Braun travaillait sur les V2, hein, bon. Mais les Soviétiques ont pris aussi pas mal, hein. On ne le sait pas toujours, parce qu'on ne sait pas très bien ce qui s'est passé de ce côté-là, du rideau de fer.
C'est marrant que c'est toujours les nazis qui ont le mauvais rôle. Nous sommes en 1955, Herr Bremer, on peut avoir une deuxième chance ?
Pendant des décennies, la conquête de l'espace se déploie sur fond de guerre froide et draine les plus fortes inquiétudes. Des opérations militaires pourraient-elles être menées dans l'espace extra-atmosphérique ? Car les deux grandes puissances rivales, l'URSS et les États-Unis, possèdent chacune la bombe nucléaire. Et les Soviétiques, qui donnent la priorité aux missiles balistiques, prennent de vitesse les Américains.
Ils étaient à ce moment-là plus forts, si vous voulez, en matière de vecteurs. Vous comprenez bien ce que ça veut dire, des vecteurs nucléaires, donc des moyens de larguer, de délivrer, de lancer une bombe nucléaire. Il ne suffit pas d'avoir la bombe, il faut aussi avoir le vecteur qui l'amène éventuellement chez votre adversaire. Donc les Américains ont eu longtemps confiance dans leurs bombardiers à long rayon d'action, hein, parce que là, ils étaient forts. Mais les Soviétiques, eux, ont développé plus vite les lancements par fusée.
Dès 1967, un premier traité international instaure des règles dans l'espace et interdit notamment le déploiement d'armes de destruction massive en orbite. L'heure est à la détente, les deux grands ennemis rivalisent moins outrancièrement dans l'espace.
Les Américains ont eu longtemps un retard en matière de fusées et à un moment donné, quand ils ont négocié avec les Soviétiques pour limiter justement le nombre d'armes nucléaires, tellement ça devenait excessif, on a fait des calculs savants pour qu'il y ait une parité globalement entre Américains qui avaient davantage de bombardiers et Soviétiques qui avaient davantage de fusées.
Lieu de puissance virile jamais rassasié, l'espace est en prétexte à la domination et à la démonstration de sa supériorité. La fin de la guerre froide semble avoir mis un terme à cet esprit de conquête militaire. La Station spatiale internationale rassemble d'ailleurs, parmi les 15 pays associés, les deux ennemis d'hier. Mais derrière cette coopération de surface, les rivalités n'ont pas disparu. Alexis Coyette, chercheur postdoc en planétologie à l'UNAMUR.
Ce qui est étonnant, c'est de se dire que pendant la guerre froide, à ce moment-là, les Américains et les Russes arrivaient quand même à collaborer dans l'espace. Et maintenant, c'est quand même déjà nettement moins le cas. Alors, ils collaborent toujours pour tout ce qui est Station Spatiale Internationale. Parce que là, il y a quand même encore des Russes et des Américains qui sont ensemble dans la station pour le moment, en fait. Ah. Donc, ils continuent quand même à se parler de façon assez étonnante, disons. Mais pour tout ce qui est scientifique, c'est vrai qu'il n'y a plus du tout de collaboration. Alors qu'on en gardait encore un petit peu pendant la guerre froide.
Entre-temps, en plus, un autre acteur est entré dans le jeu, mettant en terme à 60 ans d'affrontement bipolaire. C'est la Chine.
La Chine, dont le spatial est un acteur plus qu'émergent maintenant.
André Fusfa, spécialiste de cosmologie.
En 10 ans, la Chine a fait 3 stations spatiales, dont 2 habitées. Ils ont fait à peu près un lancement, ils ont quasiment maintenant un lancement toutes les semaines. Un lancement spatial toutes les semaines, etc. Et ils ont réussi des premières technologiques où ils ont battu les Européens et battu les Américains. Par exemple, ils ont fait la première mission robotisée sur la face cachée de la Lune. Les Chinois aussi, il y a quelques années, il y a 2-3 ans, ils ont réussi le premier doublé historique. Ils ont fait un atterrisseur et un orbiteur sur Mars. En même temps, ils ont un projet de centrale solaire spatiale d'ici 2040, je crois. Bref, il y a plein de trucs. La Chine, c'est plus qu'un acteur émergent. C'est maintenant, ils sont en train de tout. Voilà. À tel point que dans le projet Artemis, le retour sur la Lune, les Américains sont venus nous chercher parce qu'ils doivent pas être tout seuls dans le projet, etc. Mais les sites d'atterrissage sont maintenus secrets. Pour ne pas que les Chinois y aillent avant.
Et les Chinois, on ne fait pas de collaboration non plus avec eux. En tout cas, pour tout ce qui est américain, l'agence américaine a l'interdiction de travailler avec les Chinois, puis qu'il n'y ait pas de transfert de technologie qui passe chez eux, en fait.
C'est de la géopolitique, donc c'est vraiment le jeu de qui a la plus grosse. Et c'est comme ça que le monde tourne, c'est navrant. C'est navrant, mais c'est comme ça.
Si l'industrie spatiale de la Chine s'est déployée discrètement au XXe siècle, dans l'ombre des deux grands, les États-Unis et l'URSS, c'est dorénavant un ambitieux programme d'exploration planétaire automatique qui est lancé, au point que la Chine occupe désormais la 2e place dans le classement des activités spatiales mondiales. Les Russes sont détrônés, les Européens sont loin derrière. De là à projeter dans l'espace en risque de guerre, actuellement les observateurs ne parlent pas de menaces et la diplomatie reste la première ligne de défense des nations engagées au-delà des frontières de la Terre. Pour résumer, il y eut des siècles de rêverie où les yeux tournés vers les étoiles, l'homme a imaginé le voyage le plus improbable qu'il pouvait faire, le voyage dans l'espace. La contemplation cosmique des premiers temps est encore vierge de toute connaissance scientifique. Depuis l'Antiquité, des récits de ce qui n'est pas encore vraiment de la science-fiction propulsent des aventuriers vers la Lune et anticipent une guerre des mondes face à une vie extraterrestre qui, tout en étant monstrueuse, reflète en vérité les turpitudes humaines. L'espace est déjà le théâtre d'une humanité en quête d'elle-même. Au XVIe siècle, Copernic contredit le géocentrisme chrétien hérité du monde gréco-romain et ouvre une révolution que parachève Newton un siècle plus tard. À partir de là, les scientifiques disposent du corpus théorique nécessaire au voyage spatial, de l'outil mathématique qui décrit les trajectoires pour se déplacer de la Terre à la Lune ou n'importe où dans le système solaire. Il manque encore la technologie aéronautique. Elle se développe à la faveur de la Seconde Guerre mondiale. L'aventure spatiale peut alors commencer. Pour le meilleur et pour le pire.
Hector, le podcast qui questionne la science, les pratiques et les positionnements scientifiques. Réalisé par Céline Raz et le service audiovisuel de l'UNAMUR pour l'Institut Moretus Plantin.
C'était le premier épisode de la série « Vers l'infini et au-delà » du podcast Hector, la tête dans les étoiles. Merci à vous de l'avoir écouté et merci à tous ceux qui y ont participé. La suite, dans le deuxième épisode, on vous attend pour Les Nouveaux Mondes. Dans cet épisode, vous avez entendu une composition musicale originale d'Alexandre Rollman. Le montage, c'est Valentin Meis. Les voix additionnelles sont celles de Raphaël Volon, Dirk de la Bastita, François-Xavier Fievé et Patrick Foissac. Vous avez entendu des extraits des films OSS 117, Le Caire, Nid d'espions et OSS 117, Rio ne répond plus de Michel Hazanavicius, La Guerre des Mondes de Byron Askin, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre d'Alain Chabat, Voyage dans la Lune de Georges Méliès et Le Grand Blond avec une chaussure noire de Yves Robert. Il y avait aussi un extrait de la série Camelot d'Alexandre Astier et de Star Trek de Gene Roddenberry, deux passages du dessin animé Le Roi Lion de Walt Disney et un morceau de chanson, c'était Life on Mars de David Bowie.